préparé un diaporama pour Saïd, mais je me dis que même s'il n'est pas là, visuellement, ça aide d'autres. Donc, il est prêt, il sert. Ça fait des souvenirs de quand j'étais étudiant, tout ça. Alors, l'idée de mon message de ce matin, elle vient de ce monsieur-là, alors qu'on ne voit pas forcément super bien, mais il s'appelle Charles Grandison Finet. C'est un monsieur qui est mort, hein, déjà depuis longtemps. Il est né dans les années 1700 quelque chose, et il est mort autour des années 1850, je crois. Donc c'est un prédicateur américain, et qui a participé à un réveil aux États-Unis dans les années 1830. Donc il a été a priori assez actif dans ce réveil. Il a eu des positions très, très bizarres avant de venir à la foi. Et après, une fois qu'il a été à la foi, il a combattu l'esclavage, il a condamné la vente d'alcool. Enfin, il s'est vraiment battu contre des choses très, très concrètes, en fait. Il s'est pas contenté de prêcher des choses, des théories. Mais voilà, il a lutté à son niveau contre beaucoup de choses. Et donc il a écrit plusieurs livres, et tous ne sont pas traduits en français, mais celui-là je l'ai récupéré, il s'intitule « À ceux qui font profession d'être chrétiens ». Je l'ai lu sans trop imaginer ce que ça pouvait vouloir dire, le titre au début, et en fait c'est un recueil de sermons. Donc ça se lit assez bien, parce que finalement chaque sermon en une demi-heure on l'a lu, donc c'est 10-15 pages, je ne sais pas, il y a toujours des remarques derrière, et voilà. Et en fait, il remonte les bretelles des chrétiens là-dedans. Parce que voilà, à ceux qui font profession d'être chrétiens. Et donc, voilà, il remet un tas de choses dans l'ordre, je pense. Moi, j'aime beaucoup, je vous le recommande. On peut le retrouver sur Internet, en fait, hein, au format PDF, ou pour ceux qui ont des liseuses. Comme ça date des années 1800, il n'y a plus de droit d'auteur, on peut le récupérer gratuitement, en français, celui-là. Et voilà, c'est super intéressant. C'est très, très pratique. Il parle vraiment de choses très concrètes, c'est pas de la théorie, de la doctrine. Il parle de choses très concrètes avec beaucoup d'exemples, voilà. Et j'ai envie de dire presque qu'on en prend plein pour son grade, mais c'est dans le bon sens en fait, parce qu'il remet les choses dans le bon chemin, dans la droiture, et donc ça fait du bien parce que ça remet les idées au clair. Et voilà. Donc ce matin, je vais vous parler de repentance. Donc ça peut paraître un sujet assez étrange dans une église, mais voilà, c'est ce que j'ai eu à cœur. Et donc l'idée, elle vient d'un des sermons de ce monsieur. Alors je ne vous refais pas son sermon, hein, ça n'a pas d'intérêt, vous le lisez, c'est beaucoup mieux fait que ce que je vais vous dire. Mais l'idée de repentance et certaines idées qu'il a dans ce sermon-là, ça m'a travaillé, et donc je vous le resserre. Une fois que ça travaille chez nous, on peut vous le resservir. Donc le passage principal, alors hop, j'espère que c'est lisible, parce que comme c'est des passages assez longs, le passage principal, c'est celui-là, c'est 2 Corinthiens 7, versets 8 à 11. « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition? Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. » Donc ce passage, il parle de repentance, il parle de tristesse aussi. Et de quelque part de regret, parce que l'idée c'est un peu ça, c'est la repentance. Si alors voilà, faut que je suive mes diapos. Hein. Se repentir, si on prend bêtement la définition du Larousse, c'est manifester un regret sincère de ses péchés, de sa faute, accompagné de l'intention de réparer. Et donc vous voyez qu'à la définition, finalement, ça a rien de chrétien au démarrage en fait. Enfin, c'est pas que ça a rien de chrétien, c'est que c'est pas nécessairement lié à la foi. Il y a des gens qui peuvent se repentir de quelque chose qu'ils ont fait sans venir à Dieu pour autant, sans que ça soit lié à Dieu. Ils sont juste attristés par ce qu'ils ont fait, ils se rendent compte que ça a un effet qui est négatif, qui est néfaste, et donc ils se repentent et ils changent de manière de faire. Voilà. Alors, dans la Bible, bien évidemment, c'est lié à Dieu, la repentance, c'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés. C'est la douleur qu'on éprouve d'avoir péché contre Dieu, de lui avoir désobéi. Dans le Nouveau Testament, c'est le terme métanoïa, c'est le petit mot grec. Hein. De temps en temps, on l'aborde, hein, les mots, mais voilà, métanoïa, et c'est systématiquement traduit par repentance, ou alors un mot de la même famille, se repentir, repentant, enfin voilà, ce genre de choses-là. Mais il n'y a pas d'erreur sur le terme. Il est toujours traduit de la même manière, donc on peut pas se tromper. Donc au travers de ces définitions, on voit aussi qu'il y a un lien entre le regret, la tristesse et la repentance. J'insiste parce que je vais revenir là-dessus. Si on manifeste un regret sincère à propos de quelque chose, on ne peut pas le faire avec un grand sourire. Vous savez, des fois, je raconte des bêtises que j'ai faites à l'école, je les raconte avec un sourire encore. C'est qu'il y a des choses que je ne regrette pas vraiment. Voilà. Si je parle de mon péché, je ne peux pas le dire avec un sourire, en fait. Parce que je le regrette réellement, j'ai été attristé par ça. Et si je le dis avec un sourire, il y a quelque chose qui ne colle pas, en fait. On sent qu'il n'y a pas. Voilà, on ne regrette pas vraiment. Donc, il y a la tristesse qui est associée à la repentance. Et Paul, il nous dit ici qu'il y a deux types de tristesse, en fait, dans notre passage. Il y a la tristesse du monde, finalement, la tristesse naturelle, hein, qui mène pas à grand-chose, qui mène plutôt à la mort. Il nous dit, voilà, la tristesse, elle mène à la mort. Parce que, en tant que chrétien, on le comprend bien, je pense, hein. Quand on est triste, on se rend compte qu'on a fait quelque chose qui ne va pas. Alors, dans le meilleur des cas, la tristesse va nous amener à faire autre chose, hein, à avoir une nouvelle voie. Mais voilà, tant que c'est sans Dieu, on fait erreur en fait, et ça mènera qu'à la mort. Et la tristesse selon Dieu, c'est une repentance, et ça mène au salut derrière. Et donc cette tristesse-là, elle est momentanée, c'est ce que Paul il nous dit. Et elle est momentanée pourquoi? Parce que quand on se repent réellement, on reçoit le salut de la part de Dieu, on reçoit le pardon, et donc. Après, la tristesse, elle passe. On est content du salut, on est content du pardon et on reçoit la paix. Donc, c'est une tristesse qui est momentanée. Et on voit autour de nous les deux types de tristesse, en fait. On voit quand des gens se tournent vers le Seigneur et on les voit après rayonnant. Et on voit les gens autour de nous et on voit quand même sacrément que le monde, il est triste autour de nous. On voit des gens. Alors, c'est vrai que c'est marqué aussi quand on prend le métro, quand on prend le train, les gens sont refermés. Et puis voilà, même dans la rue, hein, on voit des gens qui ont un regard qui marque la tristesse. Et ça, c'est le fruit du monde. Alors, on utilise généralement le terme de repentance pour l'action de reconnaître son péché, de le confesser, et donc de manifester son intention de changer de voie. Donc la repentance, finalement, c'est le pas initial qui mène à la conversion. Il ne faut pas se tromper entre les deux, en fait, parce qu'il y a une première étape qui est se repentir, regretter, et après il y a, ok, cette voie-là, elle mène à la mort, elle est mauvaise, et donc maintenant je change de voie. Et ça, c'est la conversion, c'est faire demi-tour. Donc il y a deux choses un peu différentes. C'est vrai que les deux sont mêlés quand on vient au Seigneur, les deux se suivent, voire se chevauchent, parce que voilà, c'est mélangé, et on reçoit le salut. Donc voilà, il y a tout un chemin. Mais en réalité, il y a une étape initiale qui est reconnaître qu'on fait fausse route. Et après, la conversion, c'est prendre la route différente. Donc il y a cette image du chemin, en fait, hein, qui est je vois que mon chemin, il mène à un mauvais endroit. Donc, je m'en rends compte et je me dis, bon, j'arrête presque. Et donc, ça, c'est la repentance. Et il y a, je me retourne et je dis, maintenant, c'est cette voie-là que je prends. Ça, c'est la conversion. Et après, je marche sur ce chemin qui m'amène à Dieu. Ça, c'est la sanctification. Donc, il y a tout un processus, il y a une suite. Alors, après, on met des termes dessus, mais voilà, on le vit avec le Seigneur. Puisque, une fois qu'il touche nos cœurs, on continue la voie avec lui. C'est naturel. C'est pas qu'on doit réfléchir à dire, bon, alors, à quelle étape j'en suis, voilà. Mais quand même. Si je vous le dis, c'est parce que il faut s'assurer quelque part dans notre vie qu'on a bien fait ces étapes-là, en fait, qu'on n'a pas juste eu la repentance, mais sans la conversion, ou qu'on a eu quelque chose qui ressemble à une conversion, mais sans se repentir réellement, en fait. Donc Jean-Baptiste, il prêchait la repentance et le pardon des péchés. Et Paul, il dit dans Acte 19, voilà. Il nous dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc on voit qu'ils avaient fait cette première étape de repentance, mais Paul il leur dit, mais et donc vous êtes tourné vers le Seigneur, vous avez reçu le Saint-Esprit, voilà, vous avez entamé votre marche. Et bah non, on n'avait même pas entendu dire qu'il y avait eu ça. Donc il y avait un baptême de repentance, des gens qui le prenaient, mais ça s'arrêtait là en fait. Il manquait l'étape d'après qui était la conversion de vraiment se tourner vers le Seigneur et de marcher pleinement avec lui. Donc visiblement c'était possible. On pouvait s'arrêter à cette étape-là et on peut encore le faire malheureusement. On a 1 Thessaloniciens 1, versets 6 à 10 aussi, qui dit « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. » Donc ce qui m'intéressait, c'était « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Donc dans ce que j'ai souligné, on voit, on raconte à votre sujet l'accès que nous avons eu. Donc il y a eu la parole qui est arrivée chez les Thessaloniciens et il y a eu une réception de cette parole. Et après il dit, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Donc il dit bien, il y avait un chemin qui menait vers les idoles, vous étiez en train de marcher là-dessus et vous avez arrêté ça et vous êtes tourné pour servir le Dieu vivant et vrai. Et après on voit que la suite c'est, et pour attendre des cieux son Fils qui nous délivre de la colère à venir. Donc on voit qu'après il y a l'espérance du chrétien. Donc on voit tout ce trajet au travers du verset. Donc avec le peu que je vous ai dit, on peut déjà se poser des questions sur la repentance et on peut déjà, bah, quelque part, se dire est-ce que j'ai connu une vraie repentance ? La première, je vais trop vite, donc je vous laisse là. La première, c'est est-ce qu'on a bien éprouvé de la tristesse quand on s'est converti ? C'est important, hein, parce qu'on voit des églises, on voit des mouvements, parce que ce n'est pas vraiment en soi des églises finalement, qui... Voilà, qui font beaucoup de bruit, qui attirent les gens, et les gens, ils disent, voilà, ben moi j'ai été sauvé, je suis joyeux, mais t'as connu la repentance ? Bah, ouais, voilà, mais ça les a pas marqués, en fait. Il y a des gens qui n'ont pas été vraiment convaincus de péché, et ils sont là parce que, bah, on leur a promis le bonheur, en fait. Je pense que ça tient beaucoup à ça. On promet la paix, on promet le bonheur, la joie, toutes ces choses-là. Mais le chemin, il passe d'abord par la repentance. Il passe d'abord par cette tristesse dont parle Paul, cette tristesse qui est momentanée, mais qui est nécessaire pour passer à la suite. Et donc, dans nos vies, il faut aussi qu'on soit passé par cette tristesse-là. Et il y a un piège, en fait, dans cette tristesse. C'est que il faut pas être triste. Enfin, on devrait pas être triste parce qu'on a mal fait, parce qu'on n'a pas la joie, parce qu'on n'a pas la paix, parce qu'il nous manque le bonheur. En fait, ce qui doit causer notre tristesse, c'est par rapport à Dieu. Parce que dans le verset qu'on a lu au tout début, on a dit, c'est une tristesse selon Dieu. Alors, je ne connais pas le grec du tout, hein, mais j'ai envie de le formuler, une tristesse par rapport à Dieu. Parce que la tristesse de la repentance, c'est la tristesse d'avoir péché contre Dieu, de l'avoir offensé, d'avoir raté le but qu'il avait prévu pour nous. Et c'est pas juste le fait d'être malheureux, d'avoir une vie qui est triste, d'avoir fait des choses mal, mais voilà, parce que quand on dit d'avoir fait des choses mal, c'est vrai que ça fait partie, on se repent de ça. Mais pourquoi est-ce qu'on est triste d'avoir fait des choses mal ? Parce que du coup, on en a des conséquences nous, que notre réputation est pas terrible, parce que non, on doit être triste parce qu'on a fait des choses mal, parce qu'on a offensé Dieu en fait. C'est ça le cœur de la repentance. Et c'est pour ça que la tristesse, elle est différente. C'est pas une tristesse qui est centrée sur moi. Et tristesse qui mènera à la mort, c'est une tristesse qui est centrée sur Dieu. Se dire, mais Seigneur, je t'ai offensé, j'ai péché contre toi. Et on voit ça dans plusieurs personnes, en fait, dans la Bible, hein, qui disent, mais je pense au publicain qui est à côté du pharisien et qui dit, j'ai péché contre toi. Et voilà, c'est pas qu'il se plaint de son propre sort, en fait, mais il reconnaît qu'il a raté quelque chose par rapport à Dieu. Et il faut vraiment qu'on pense à toujours se remettre avec Dieu au centre, en fait, et pas nous. Alors je sais bien que c'est notre repentance, c'est notre conversion qui est là, Mais en fait, c'est Dieu qui est au centre. Donc même la conversion, même notre repentance, c'est pour nous ramener à Dieu. C'est lui qui doit rester au centre de tout ça. Donc cette idée de tristesse qu'on éprouve, hein, c'est ce que j'ai piqué, on va dire, de ce monsieur Charles Finet. Mais voilà, il décrit des tas d'exemples, des tas de possibilités où on peut être triste, mais que cette tristesse, elle n'est pas une bonne origine, en fait, une bonne source. Alors, il faut aussi faire attention parce qu'on pourrait très bien se dire, alimenter notre propre tristesse, en fait. Se dire, puisqu'il faut être triste selon Dieu, je vais être abattu et je vais vraiment réfléchir à ma tristesse. Et on se fait du mal, en fait, nous-mêmes, hein, c'est quelque part, c'est ça. Et on alimente notre propre tristesse. Et ça, c'est un piège aussi, parce que du coup, on n'est plus selon Dieu, on est en train nous-mêmes d'alimenter notre tristesse. Et on est revenu à notre propre petite personne qu'on a remis au centre. Donc on se trompe. Et si on pense que en se flagellant nous-mêmes, en se disant oui, malheureux que je suis pauvre, je suis ceci, on ne gagnera rien en fait. Parce qu'on est en train de chercher à obtenir le salut par nos œuvres, encore une fois. On est encore en train de détourner le moyen du salut que Dieu a prévu. Donc il faut. En fait, on n'a pas d'autre choix que de vraiment se mettre devant Dieu. Et si on n'éprouve pas cette tristesse, de lui dire Seigneur, donne-moi cette tristesse selon toi. Je ne peux pas l'inventer. Je ne peux pas la produire moi-même, c'est à toi de me montrer comment tu es glorieux, comment moi je suis pécheur, et qu'il y a un gouffre qui est monstrueux. Et là, on va sentir la peine de notre péché, et on sera devant le Seigneur d'une manière naturelle, en fait. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Alors je reprends ce que dit Paul, hein. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et je crois que si on alimente nous-mêmes notre propre tristesse, alors on n'est pas dans la tristesse selon Dieu, en fait. On est dans une tristesse humaine. Et elle me fait signe, c'est que j'ai raté quelque chose. Voilà. Ah, on pourrait reformuler, parce que cette phrase, elle peut paraître un peu étrange. La tristesse selon Dieu produit une repentance dont on ne se repent jamais. On dit, alors, il y a repentance, il n'y a pas repentance, c'est quoi sa phrase? Mais en fait, il dit la tristesse, on pourrait dire la tristesse ou le regret par rapport à Dieu produit une repentance qui mène au salut et qu'on ne peut pas regretter en fait. C'est une repentance qu'on ne regrette pas. C'est-à-dire qu'il y a une tristesse qui va mener à la mort et qui finalement on devrait l'abandonner, que ça ne sert à rien. Et il y a une tristesse pour laquelle on éprouve de la joie en fait à la fin. On est content et on se dit mais j'ai bien fait de me repentir, c'est un regret positif quelque part. C'est le seul regret positif qui existe. Hein. Et donc Paul, il sous-entend aussi que la tristesse selon le monde, elle est regrettable en fait. On va la regretter parce qu'elle ne mène pas à grand-chose. Et il faut à tout prix se tourner vers la bonne tristesse finalement. Alors je vous dis, il ne s'agit pas de cultiver la tristesse, hein. Je ne suis pas en train de vous dire, soyez tous tristes, sortez tous en pleurant et voilà, ça mènera à rien. Mais c'est notre situation par rapport au Seigneur en fait. Et c'est ça qui doit nous faire éprouver de la tristesse. Et je crois que il y a ce pas initial qu'on fait quand on se tourne vers le Seigneur, mais il y a aussi la suite en fait. Et à chaque fois qu'on rate quelque chose par rapport au Seigneur, on doit rééprouver cette tristesse-là. Et voilà, c'est une marche qu'on continue. Donc on vit quelque part avec la tristesse en tant que chrétien. Mais il dit bien, c'est une tristesse qui est momentanée. Il dit, voilà, j'ai pas de regret de vous avoir rendu triste. Alors si je vous ai rendu triste, ça en soi, c'est pas positif, mais c'est, j'ai pas de regret parce que vous êtes tourné vers le Seigneur après et que vous avez eu une vraie repentance. Donc, il leur dit, voilà, c'est pas que je me réjouis de vous avoir attristé, mais je me réjouis de ce que ça vous a amené à la conversion et au salut, à la repentance. Alors, je me suis déjà perdu. Oui, dans les mots de Paul, il y a aussi quelque chose d'important, c'est que c'est une tristesse. Donc, dans un sens, ça produit la mort. Et il dit par contre, et c'est toute la fin du passage, il dit la tristesse selon Dieu, regardez ce qu'elle a produit en vous, en fait. Elle a produit de l'empressement, elle a produit de la justification, de l'indignation. Voilà, ça boue en vous parce qu'il y a quelque chose qui a été produit de positif. Et je pense que leur indignation, leur justification, leur crainte, tout ça, c'est lié à leur péché, en fait. Et ils se sont rendus compte de comment ils étaient, et ça, voilà, ça a démarré quelque chose dans leur cœur. Et c'est ça, la conversion, en fait, hein. Il y a quelque chose qui démarre dans nos vies, et voilà, ça bouillonne, et ça produit plein de choses. C'est le début de la vie, en fait. Donc c'est un début de quelque chose. Alors que de l'autre côté, bah, ça produit la mort. Donc il y a vraiment un contraste. Et donc Paul, il nous donne ce critère qui est important pour nous. Quand je regarde ma conversion, quand je regarde mes moments de repentance, qu'est-ce que ça produit derrière? Et il doit y avoir un produit qui est bon. Et c'est tout ce qu'on lit dans le Nouveau Testament, hein. On reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît aussi l'œuvre du Seigneur à son fruit derrière. Et si le fruit, il n'est pas bon, il faut se poser la question sur l'œuvre initiale, en fait. Et quand on fait quelque chose et que ça mène à un désastre, alors bon, il y a des fois le Seigneur, il conduit aussi les désastres, hein. C'est pas si évident que ça. Mais voilà, d'une manière générale, il faut regarder le fruit qui est produit et ça doit être à la gloire du Seigneur. Ça peut être un désastre pour nous, mais ça peut être à la gloire du Seigneur quand même. C'est pas gênant. Donc en fait, c'est surtout regarder le fruit, c'est est-ce que c'est bon pour le Seigneur? Est-ce que ça le glorifie? Est-ce que ça le met en avant? Après, que ça soit un désastre ou une réussite, c'est presque secondaire, en fait. C'est difficile pour nous, hein. Mais voilà. De toute façon, si c'est à sa gloire, quelque part, on participe à sa gloire. Et donc, même si c'est un désastre humain, on participe à sa gloire. Et c'est pas un désastre, finalement. Alors, dans 1 Jean... Je fais des diapos, mais je ne les suis pas. Donc ça, c'était ma reformulation de Corinthiens selon Michaël. 1 Jean 3, versets 5 à 10. Vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc on voit que le fruit de la repentance, c'est le salut. Et le salut, après, une fois qu'on est enfant de Dieu, on ne doit plus pécher. Et il va plus loin après, hein. Il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc Jean y reprend ici pas mal de choses dont on a déjà parlé, et c'est celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché et il ne peut pas pécher en fait. Alors pourquoi il dit ça? Parce qu'il a parlé de semence de Dieu en nous. Et si notre nature elle est transformée, alors le péché, c'est pas naturel en fait. C'est ça qu'il dit. Il dit si on pêche, il y a quelque chose qui est contre notre nouvelle nature et ça marche pas en fait. C'est pas possible. Ça colle pas. Alors c'est vrai qu'on chute par moments, mais ça, la chute, ça indique bien que c'est, on part d'un état et on tombe en fait et on rate quelque chose et c'est pas notre nature. Notre nature, c'est d'être debout et de marcher. C'est difficile à dire, hein, parce qu'il ne peut pécher. On se dit, mince, on a encore du chemin, en fait. C'est que notre nature, elle n'est pas suffisamment transformée, parce que sinon, on ne supporterait pas le péché. C'est à cause de ça, en fait, hein. Si la nature de Dieu, elle est en nous, alors on ne supporte pas le péché, parce que lui ne supporte pas le péché. C'est juste sa nature à lui qui s'exprime en nous. Et donc, on doit en arriver là, en fait, avec la repentance, la conversion. On doit arriver au stade où. Mais en fait, c'est un stade qui arrive vite, hein. C'est parce que je vous dis, on doit arriver au stade, j'ai l'impression, bon voilà, à la fin de ma vie chrétienne, je supporterai plus le péché. Mais non, si le Seigneur nous donne sa nouvelle nature, c'est au début. Et du coup, c'est dès le début qu'on supporte plus le péché. Donc ça, c'est un marqueur pour savoir est-ce qu'on a eu une bonne conversion, une bonne repentance envers lui. On a pris l'image du chemin tout à l'heure. Je vous ai dit, voilà, la repentance, quelque part. C'est se rendre compte que le chemin, il mène nulle part, ou il mène à la mort. Il y a la conversion, on se retourne, et la sanctification, on marche sur ce chemin. On prend un chemin qui est diamétralement opposé, en fait. Et il disait tout à l'heure aux Thessaloniciens, vous alliez vers les idoles, et vous vous êtes tournés vers le Dieu vivant et vrai. Et autant au début, on peut encore se poser la question, parce que quand on change de chemin, bah, on reste proche de l'ancien, finalement. Techniquement, on reste proche de l'ancien pendant un moment. Mais si les chemins y vont comme ça, très rapidement, vous vous éloignez du chemin sur lequel vous étiez. Et donc, quand on se convertit, ça doit se voir, c'est inévitable. Il peut y avoir un léger doute tout au début parce qu'on vient de quitter le chemin, mais après, ça va dans des directions opposées. Donc ça se voit forcément. Et il faut qu'on s'examine nous-mêmes. C'est pour ça que je vous raconte tout ça ce matin, hein. C'est examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Parce qu'on doit voir ces choses-là dans notre cœur, en fait. Et on doit voir les conséquences sur notre vie pratique de tous les jours. C'est aussi toute l'idée qu'on retrouve dans Galates 5, en fait. Il y a le fruit de l'esprit, alors je vais prendre dans le mauvais sens, mais il y a les œuvres de la chair, qu'on pourrait traduire le fruit de la chair, hein, et il y a le fruit de l'esprit. Donc on porte des fruits différents en fonction de notre nature. Il y a le bon arbre qui porte du bon fruit, il y a le mauvais arbre qui porte du mauvais fruit. Donc c'est à nous à prendre garde et à regarder sous nos branches un peu quels fruits on porte. Et quand le fruit il est pourri, se dire Seigneur, il y a une partie qui n'est pas bonne, là, il faut que tu coupes parce que voilà, il y a une nouvelle nature à avoir. Alors je termine avec quelque chose que j'aurais pu dire au tout début. Mais ça aurait fait une introduction très très longue et je me suis dit, je vais vous perdre, vous allez dire de quoi il parle. Donc je vous le dis à la fin, c'est pas très logique, mais je me dis, voilà, si maintenant vous changez d'avis, c'est pas grave, vous pouvez toujours réécouter le message sur Internet, vous reprendrez le début à la fin. Voilà. C'est un peu bizarre, mais voilà. Vous allez vous dire, et c'est ce que je me suis dit en préparant, hein. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est pas un message pour une église, ça. C'est un message pour dehors. C'est la conversion, c'est la repentance. Nous ici, c'est bon, c'est fait. Et oui et non, en fait. Et oui et non, parce que je vous dis, l'idée, c'est examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc ça s'applique à des chrétiens. Il me dit, regardez et regardez si vous êtes encore sur le bon chemin. Et je vous ai dit tout à l'heure, la conversion, la repentance, c'est quelque chose qu'on fait au début, c'est un pas initial. Mais je pense que c'est aussi un pas qu'on continue à faire tout au long de notre vie. Donc ça reste valable pour les chrétiens aussi. Donc je pense que c'est important déjà, la première raison, alors qui est bête et qui s'applique probablement à personne, mais je la dis quand même, c'est que on peut croire s'être repenti de ses péchés, on peut croire avoir eu une conversion et en fait être encore sur le mauvais chemin. Et c'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, il faut regarder les fruits en fait, il faut regarder, essayer de revenir en arrière, c'est dire, est-ce que j'ai vraiment éprouvé une tristesse pour mon péché par rapport à Dieu? Et examiner ça pour savoir si on est sur le bon chemin véritablement. Alors, il ne s'agit pas de vous coller le doute, hein. C'est pas l'idée. Mais voilà, dans la Bible, tout est là pour nous enseigner, nous dire, voilà, surveillez dans quel chemin vous allez et veillez à ne pas retomber sur l'ancien chemin. Donc, c'est important pour nous. Et je crois que c'est une des plus belles réussites du diable, si on peut formuler ça comme ça, de faire croire à un chrétien qu'il est sur le bon chemin, en fait. Et qu'en fait, il est sur le mauvais. Et là, quand le diable, il a réussi à nous mettre dans la tête que c'est bon, regarde, tu suis le Seigneur, c'est nickel, tout ça, alors qu'en fait, on est complètement à côté, là, lui, il a une belle réussite. Et nous, on se trompe, et on se trompe avec comme enjeu notre salut éternel. C'est pas juste qu'on se trompe de chemin, voilà, ça nous arrivait en vacances, hein, on a pris un mauvais chemin, bah, on finit par retomber sur notre route, et puis voilà, ou on change de balade, on fait autre chose de ce qui était prévu, c'est tout. Mais dans la vie chrétienne, c'est pas juste une balade. C'est que ça nous mène à Dieu, et si on se trompe à la fin, bah c'est Dieu ou l'enfer. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc il faut à tout prix être sûr d'être sur le bon chemin. Et ça passe par le fait de regarder constamment. Je vous dis, c'est pareil, c'est pas une question d'avoir peur tout le temps, est-ce que je suis sur le bon chemin? Mais voilà, il y a des moments que le Seigneur permet dans notre vie, on s'arrête un peu, on regarde notre vie, on dit, bon, je vais où là, Seigneur? Et on réfléchit un peu et on voit si on est sur la bonne route ou pas. Je crois que le piège, on dit le diable, il réussit à nous faire croire qu'on est sur le bon chemin. Le piège, il tient à l'orgueil, en fait. Il tient à l'orgueil et du coup, les premiers concernés, bah, c'est ceux qui sont dans une position où ils peuvent en avoir de l'orgueil. Donc c'est ici, en fait. C'est en étant ancien, en étant prédicateur, on a le plus de risques de tomber parce que le diable, il peut prendre une toute petite pointe d'orgueil et s'en servir pour nous ramener ailleurs. Donc ce point-là, il était pour moi. Je vous le raconte quand même, hein, mais. C'est important aussi parce que si on se trompe sur notre propre personne, on se trompe aussi pour les autres, en fait. Parce qu'on a une influence sur les autres, Et donc, si nous, on s'est planté de route, eh ben, on est en train de tirer des gens sur la mauvaise route potentiellement aussi. Donc, le Seigneur, il est grand, il peut aller au-delà de ce que nous, on fait, et heureusement, il peut aller au-delà de ce que nous, on rate. Mais quand même, c'est important que ma propre route, elle soit la plus droite possible pour lui, parce que c'est un modèle pour les autres aussi. Alors, je vous cite souvent hein, ce verset-là, mais moi, il me travaille beaucoup, il me fait beaucoup réfléchir, et j'y reviens souvent. Voilà, Matthieu 7. Vous devez le connaître par cœur tellement je vous en ai parlé souvent, mais c'est ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pour ça que je vous dis ça aussi, parce que finalement, on voit là, dans Matthieu 7, des gens qui ont l'air d'être convaincus d'avoir fait la volonté du Seigneur, qui prophétisent, qui chassent des démons, qui font des miracles, et à la fin, le Seigneur leur dit, tu t'es planté complètement, je te connais pas, je t'ai jamais connu. Et on imagine ce moment où ça se passe, là, c'est... Voilà, c'est quelque chose que personne devrait vivre en fait. Donc, il y a des avertissements pour les chrétiens, il y a des avertissements pour les gens qui ne sont pas, hein, mais il y en a aussi beaucoup pour les chrétiens, parce qu'on peut facilement tomber dans le travers de croire qu'on est sur le bon chemin alors qu'on n'y est pas. Alors la repentance, c'est un pas initial et c'est un pas qu'on fait en continu. J'avais l'idée de ce qui va nous arriver au boulot dans pas longtemps. Il y a des normes à respecter dans certaines entreprises. Voilà, nous, c'est la norme ISO 17025, avec plein de lettres et des chiffres qu'on ne comprend pas, mais voilà. Et il y a les normes ISO 9000, ISO, enfin, voilà, il y en a plein, hein, des normes. Et en fonction du travail, on a à respecter une norme, c'est-à-dire qu'il y a des règles de fonctionnement. Et donc, on a tout un système en place qui est très coûteux, en fait, hein, en termes de temps et de gens, de documents qui décrivent comment on doit fonctionner. Voilà. Telle analyse, il faut la faire de telle manière. Les laboratoires d'analyse médicale, par exemple, ils ont des règles strictes. Hein, et voilà, il y a les règles, on a dû les écrire dans des documents, ça s'appelle des procédures. Et on observe en continu le fonctionnement du laboratoire pour voir s'il suit bien la règle. S'il ne le suit pas, eh ben, il y a ce qu'on appelle des non-conformités. On écrit dans un document qu'on n'a pas fonctionné comme on aurait dû. Et il y a tout un système de correction de ça. Alors éventuellement d'adaptation de nos procédures si ce n'était pas adapté et que voilà, ça se reproduit régulièrement, c'est que notre procédure n'est peut-être pas idéale. Hein. Mais donc il y a tout un système, et ça existe dans beaucoup d'entreprises, je pense, de non-conformité, d'action corrective pour corriger ce souci en particulier, d'action préventive, on va mettre en place des nouvelles règles pour éviter de reprendre encore une fois le mauvais chemin. Voilà, ça peut devenir lourd, mais voilà, il y a des règles à respecter, et je sais que nous, en tout cas, si on ne les respecte pas au laboratoire, au niveau européen, on n'a plus le droit de travailler. Voilà, il y a la règle européenne qui est que si vous voulez faire des analyses ADN pour l'Europe, il faut à tout prix respecter cette norme-là. Si vous ne la respectez pas, on ne s'adresse plus à vous, la France, vous ne faites plus d'analyse pour nous. Donc c'est strict, voilà, mais le processus, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est continu. Il y a des gens qui bossent en continu là-dessus. Je suis pas un grand fan, mais voilà, c'est comme ça. Ils passent leur temps à regarder si le fonctionnement il est bon, à écrire des documents, à corriger, et voilà, c'est un système assez lourd, hein. Mais qui obtient un résultat à la fin, qui est qu'on fonctionne d'une manière correcte. Et avec le Seigneur, alors la différence, c'est que le Seigneur, la procédure, elle est écrite, on ne la changera pas. Elle est là, la procédure, en fait, hein, et on ne peut pas la changer. Mais tout au long de notre vie, on doit dire, voilà, est-ce que je suis la procédure? Est-ce que je suis ce que le Seigneur me dit? Ou est-ce que je suis en train de dévier? Si je dévie, alors je prends les mesures nécessaires pour me remettre sur le bon chemin. Vous avez dit une fois... Oui, je vous avais parlé du chemin hein, plusieurs fois. Et c'est l'idée aussi de la fusée. Hein, quand elle part dans l'espace, s'il y a le moindre tout petit écart, à la fin, on se retrouve des milliers de kilomètres à côté. Et donc, bah, il faut corriger au fur et à mesure pour se remettre sur la bonne trajectoire. Je termine avec Acte 3, verset 19. Je pense que la repentance, elle est importante à cause de ce verset-là aussi. Parce que si on... si on veut être visité par le Seigneur, si on veut qu'il nous renouvelle, si on veut un réveil quelque part, hein, que le Seigneur il fasse connaître sa présence, qu'il sauve encore plus de gens autour de nous, la conversion, la repentance, c'est quelque chose de fondamental en fait. Là ici, dans Acte 3, c'est dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Et c'est vrai que « Repentez-vous donc et convertissez-vous », c'est adressé à des païens. Mais je pense que le réveil, il vient avant tout par un réveil dans l'Église d'abord en fait, et qu'il faut une repentance des chrétiens, que les chrétiens se remettent sur le bon chemin pour que le Seigneur puisse les utiliser et faire sortir l'évangile de l'Église et sauver d'autres personnes. Donc la repentance, c'est super important pour nous aussi. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci de ces sermons aussi qui sont un peu rudes, un peu brutes, mais qui nous remettent dans la droiture et la simplicité de ta parole. Et Seigneur, que tu puisses nous montrer les endroits où ça ne va pas dans nos vies. Pour moi aussi, Seigneur, je prie pas juste pour mes frères et sœurs, mais pour moi le premier. Seigneur, et que nous puissions éprouver une tristesse selon toi. Seigneur, pas nous forcer à être tristes, pas, Seigneur, faire du cinéma en quelque sorte, mais vraiment sentir cette différence entre ta sainteté et nous, Seigneur, et notre péché. Seigneur, merci parce que nous ne sommes pas des chrétiens tristes. Tu nous donnes la joie, Seigneur, la joie d'avoir ton salut. Mais Seigneur, cette joie, elle est liée à notre tristesse d'être dans le péché par moment. Et Seigneur, aide-nous à marcher dans tes voies, à ne pas chuter en permanence, Seigneur, parce que le fruit de ton esprit, ce sont des bonnes choses, Seigneur. Et nous voulons avoir ta nature, Seigneur, être rempli de ta nature pour ne plus pécher, pour ne plus supporter le péché. Seigneur, si souvent nous supportons le péché et nous allons bien vite en nous disant que tu pardonnes et voilà. Mais Seigneur, tu pardonnes s'il y a une vraie repentance. Et nous voulons expérimenter ça, Seigneur, même si nous l'avons vécu une première fois, nous voulons continuer de l'expérimenter pour revenir à toi sans cesse, Seigneur. Amen.